Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le 11 février 1858, la Mère de Dieu apparaissait à Bernadette Soubirous, petite bergère devenue depuis Sainte Bernadette. Chaque 11 février, l'Église célèbre la Journée mondiale des malades, une journée dans le monde entier pour mettre toutes les personnes malades à l'honneur et pour prier pour elles. Que fait l'Église pour accompagner ces derniers? Quelle présence, quelle écoute, quel réconfort? Mon invité de ce matin a quelques-unes des réponses à toutes ces questions et pour cause. Ordonné diacre en 1993, voilà plus de 25 ans qu'une partie de sa vie consiste à les visiter. Journal d'un diacre, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité Hubert Paris. Vous êtes diacre et auteur donc d'un journal, Journal d'un diacre de campagne, paru en auto-édition. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes comme tombé du ciel pour cette émission du 11 février. Donc c'est un journal écrit un peu au fil de la pensée, dans lequel vous revenez sur votre vie. Vous partagez beaucoup de vos rencontres avec des personnes malades au long de vos années d'apostolat. On va faire connaissance avec vous. On va essayer dans cette première partie de voir qui vous êtes. Puis on partagera quelques-unes des perles de ces rencontres. Et à la fin, vous nous parlerez du diaconat. On en parle souvent à cette antenne, mais il est toujours bon d'essayer de mieux découvrir ce ministère. Il faut dire aussi que vous étiez venu en d'autres temps à ce même micro pour parler d'un autre livre, « Vivre avec une personne malade », ouvrage paru aux éditions de l'Atelier en 2007. Alors, Hubert de Paris, peut-être ma première question avant qu'on parle un peu de votre vie, ça serait, est-ce que dans le cœur d'un diacre qui a... pendant plus de 25 ans, visiter des personnes malades, le 11 février sonne un peu de manière particulière. Et si oui, pourquoi?
C'est une date particulière parce qu'il y a une proximité entre ce qui s'est passé à Lourdes et la vie des malades qui me paraît évidente. Beaucoup de souffrance. J'ai rencontré beaucoup de gens qui peinaient, mais j'ai rencontré aussi beaucoup de gens à qui nous avons essayé de donner sens à leur vie. C'est pourquoi le 11 février me paraît une journée particulièrement intéressante et vivante pour les malades.
Est-ce que pour les malades eux-mêmes, on imagine tous ceux qui font partie des hospitalités diocésaines et autres, le 11 février, souvent ça sonne comme une date particulière et ils ont conscience que quelque part, c'est un peu leur fête ou pas?
On essaie, au niveau des paroisses, au niveau des aumôneries, on essaie de donner un caractère particulier ce jour-là, pour qu'ils se sentent davantage pris en charge.
Davantage entouré ou davantage chéri. Alors on va faire connaissance un petit peu avec vous. Il faut dire que vous êtes né, si j'ai bien compris, un petit peu loin, j'allais dire de la France, mais non, parce que c'était la France.
C'était la France.
Voilà, racontez-nous. Donc vous êtes né en Algérie, à Sétif, département français à l'époque.
Je suis né à Constantine.
Vous êtes né à Constantine.
Et j'ai vécu à Sétif très longtemps. Et j'étais dans une famille qui était très modeste, mais qui m'a élevé dans des conditions absolument laïques.
Alors vous êtes né en quelle année, juste ?
En 1933.
1933.
Ça fait quelques années.
Ça fait quelques années.
Et cette famille avait la richesse de m'avoir donné beaucoup de vertus, si je puis dire, ou de laïques. On m'a donné le goût du travail, on m'a donné le goût du respect de l'autre, on m'a donné
le sens de l'honnêteté.
Le sens de l'honnêteté. C'était tout à fait laïque. Et je crois que c'est ce qui m'a permis de découvrir la dimension plus spirituelle après. Il y avait dans cette dimension qui m'était inculquée une spiritualité.
Donc famille non croyante.
Famille non croyante. Et je suis parti en pension. J'avais 16 ans, ça a été un drame parce que je quittais les jupons de ma mère.
À 400 km de là, c'est ça, hein?
C'est ça, oui. Je me rapprochais d'Alger. Là. Et j'ai rencontré, en arrivant dans cette école, un garçon qui nous a parlé de Jésus-Christ.
Alors, Paul...
Paul Poulaillon.
Poulaillon, oui. Donc vous avez 16 ans, vous dites que vous êtes retrouvé donc à Délis, en Kabylie, à l'est d'Alger, donc 400 km au-dessus de Sétif, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Ouais, et donc vous ne rentriez à la maison que pour Noël, 2 semaines à Noël.
Alors on avait beaucoup moins de vacances qu'aujourd'hui.
2 semaines à Pâques. Parlez-nous de ce Paul, en fait. Donc vous dédiez plus ou moins votre livre à cet homme, en fait, quelque part, à ce petit garçon. Hein,
c'est ça.
Ce jeune homme.
Ce jeune qui nous a pris à la première fois, dans les premiers jours où on s'est retrouvés, et qui nous a spontanément parlé de Jésus-Christ pendant qu'on était en récréation.
De but en blanc, comme
ça. De but en blanc. Et ça m'a intéressé, parce que je n'en avais jamais entendu parler.
Dans une école laïque ou une école religieuse ?
Une école laïque, tout ce qu'il y a de plus laïque. Et nous étions 2-3 copains qui l'écoutions pendant les récréations. Et ça m'a donné le goût de continuer de connaître Jésus-Christ.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a tant frappé ou intéressé ? Parce qu'on se dit que, bon, à 16 ans, on peut avoir une certaine maturité, mais en tout cas, aujourd'hui, si on transpose ça, quelqu'un qui, dans une cour de récréation, se mettrait à parler de Jésus-Christ, je ne sais pas comment les élèves réagiraient, ce serait compliqué pour lui. Qu'est-ce qui vous a
Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que ce n'était pas de la théorie. Il nous donnait des exemples de vie, des exemples où il s'était impliqué, des moment où il avait complètement modifié sa façon de voir les choses par rapport à cette parole du Christ. Il y avait une incarnation de la parole de Dieu qui m'a beaucoup interpellé.
Alors on y reviendra sur ce Paul, ou en tout cas sur un de ses camarades. J'aimerais que vous nous parliez un peu de votre marraine. Vous dites dans votre livre que votre marraine a une importance particulière dans votre vie. C'est une femme qui avait beaucoup souffert et qui gardait au cœur quelque chose de très dur. Pourquoi est-ce qu'elle vous a marqué ?
Elle m'a marqué parce que quand je l'ai connue, son mari avait été tué aux émeutes de 1945 à Sétif. Et elle était en révolte. Elle était incapable de dire le Notre Père, pardonne-nous nos offenses. Mais pendant des années, malgré cette impossibilité, elle est restée fidèle et nous allions tous les dimanches ensemble à la messe. Et sa fidélité à ce Dieu d'amour m'a frappé. Elle a été portée par cette dimension d'amour. Et c'est elle qui m'a donné le plus grande dimension de la force de la foi.
Alors vous disiez aussi qu'elle vous avait donné l'habitude d'aller porter des colis alimentaires,
oui.
En tout cas c'est ce
Alors
qu'elle
elle
faisait.
M'a fait découvrir la foi au niveau cultuel, si je puis dire. Et elle m'a fait découvrir aussi ce qui est très riche. Elle travaillait à la mairie et elle portait les colis. Elle était le bureau de bienfaisance, ça s'appelait à l'époque. Et elle m'a fait découvrir le monde de la grande pauvreté, des gens qui n'avaient pas de quoi manger, des gens qui n'avaient personne pour les aimer. Et j'étais, moi, dans un milieu qui était tout à fait classique et généreux.
Donc à Sétif, hein, toujours.
On est toujours à Sétif. Et j'ai découvert le service aux plus pauvres.
Alors vous ne le dites pas dans votre livre, mais quand est-ce que vous êtes rentré d'Algérie avec votre famille ?
Je suis rentré d'Algérie après l'indépendance. Parce que j'avais des examens encore à passer à la fac d'Alger, et quand le jury a pu se recomposer après juillet 62, j'ai passé ma thèse d'urbanisme et je suis rentré en France ensuite.
Alors, vous avez donc participé donc à la jeunesse, à la GEC, aidez-moi.
Jeunesse étudiante catholique.
Voilà, pardon, la GEC, puis donc avec les jésuites de Notre-Dame d'Afrique. Vous passez assez vite sur votre expérience professionnelle, on n'apprend pas grand-chose sur votre expérience professionnelle, peut-être que vous allez nous en dire un mot. Et puis, je vais vous taquiner un peu, vous passez un peu vite sur la rencontre avec votre femme. On apprend tout d'un coup, en 2-3 lignes, que vous êtes marié, vous avez 3 enfants, et aujourd'hui 5 petits-enfants. Alors, dites-nous un tout petit peu plus sur la profession qui a été la vôtre et peut-être sur malgré tout sur l'autre un point important de votre vie qui est le fait que vous soyez marié, que vous ayez des enfants.
J'ai rencontré en sortant de l'école, j'ai rencontré un monsieur qui est devenu mon employeur, qui a été un homme déterminant dans ma vie aussi. Et j'étais sorti d'une école avec un diplôme de dessinateur et il m'a permis en travaillant avec lui, de passer le diplôme d'architecte. Donc j'ai commencé à faire un diplôme d'urbanisme d'abord, et ensuite un diplôme d'architecte.
Donc vous avez été architecte la plupart de votre vie.
J'étais architecte jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle.
Alors, puisque vous ne dites pas grand-chose de votre épouse, on va respecter votre pudeur, mais vous pouvez au moins nous donner son prénom.
Ah oui, oui, mais Francette.
Francette, voilà. Un peu plus loin dans votre livre, ou pas tant que ça, parce qu'en fait, vous parlez beaucoup de vos expériences de diacre, mais vous n'êtes pas très dissert sur votre vie. Je voulais un peu vous tirer les vers du nez, parce que c'est toujours bien de savoir qui parle. Vous dites qu'un jour, vous avez été interpellé, donc on imagine que vous aviez une vie chrétienne, classique, fidèle, aimante. Un jour, un prêtre vous interpelle. As-tu pensé au diaconat ? Parlez-nous un peu, même si on y reviendra plus tard. De cet appel, c'était quand ?
Nous étions mariés, nous fréquentions l'église de façon très assidue, on était engagés dans différents mouvements, nos enfants étaient à l'école catholique à l'époque, et donc on était investis aussi au niveau à l'école avec les enfants, etc. Et un jour, le curé me dit « As-tu pensé au diaconat ?» C'était pour moi de l'hébreu.
Vous saviez quel âge ?
J'avais 30 ans.
30 ans, ah oui, c'est jeune, oui.
Mais je n'avais jamais entendu parler du diaconat, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai dit, je ne sais pas. Donc il m'a fait rencontrer un diacre qui était déjà ordonné depuis quelques années du diocèse de Nanterre. Et quand on est sorti de cette rencontre, ma femme m'a dit, on ne peut pas donner suite à la demande du curé. On a trop de choses dans les affaires. Donc, j'ai mis le mouchoir dans ma poche et puis j'ai attendu. Les enfants ont grandi, les enfants sont devenus quasiment adultes et j'ai reposé la question en famille, à savoir si je pouvais penser au diaconat. Et c'est là que j'ai été ordonné.
Donc en 1993.
En 1993, par Monseigneur Favreau.
Donc, et à l'époque, il était évêque de Nanterre.
Il était évêque de Nanterre.
Et vous aviez donc quel âge ?
30 ans.
Ah oui, vous avez mis votre mouchoir dans la poche pendant quelques années quand même. Oui. Vous êtes incardiné au diocèse de Nanterre. Vous avez été donc diacre dans ce diocèse pendant de longues années, de 1993 à 2001. Ensuite, vous êtes venu dans le sud-ouest et cette fois c'était à Auch. Et puis aujourd'hui, donc vous êtes pour le diocèse de Toulouse, même si vous me disiez hors antenne au début de cette émission, vous avez moins de responsabilités. J'aimerais que vous nous parliez de ces trois étapes, mais surtout donc de celle pour le diocèse de Nanterre. Vous êtes ordonné donc en 1993, on l'a dit. Et alors après, comment ça se passe et quelle a été votre responsabilité, votre mission ?
La lettre de mission a mis un certain temps à se mettre au point. Donc c'est après une longue discussion avec l'évêque qui tient compte de nos compétences, qui tient compte de notre vie de famille et qui tient compte aussi des besoins qu'il a sur le diocèse. Et il m'a donné la lettre de mission en juin 1993 pour être au service des personnes qui souffrent. Je découvrais quand même le monde des malades, même si j'étais relativement sensible à fréquenter les personnes âgées.
Alors je croyais qu'on trouvait un apostolat qui justement correspondait à la personne. Alors vous, c'est un univers que vous découvriez complètement ?
La grande maladie, oui. J'avais davantage la connaissance et la pratique des personnes âgées.
Donc on vous nomme pour quoi exactement ? Quelle était votre mission ?
D'accompagner les personnes qui souffrent. J'ai donc rencontré des gens en milieu, en famille, à leur domicile, en hôpital, en EHPAD. Et je travaillais avec une équipe qui était relativement importante sur la ville d'Antony. Antony était une ville qui faisait 60 000 habitants. Et il y avait une équipe d'une dizaine de personnes.
Alors, on y reviendra assez largement dans la deuxième partie. Vous rapportez donc de nombreuses rencontres. Il y a beaucoup de visages, de paroles qui reviennent au fil de ces pages échangées avec toutes ces personnes. À vous lire, on a l'impression que c'est surtout un ministère d'écoute. Je ne sais pas si c'est d'être diacre ou en tout cas d'aller visiter les personnes malades. Qu'est-ce que vous nous diriez sur ce sujet ? Est-ce que, en fait, vous avez surtout appris à écouter ?
C'est le numéro un, c'est d'abord écouter. C'est pas venir dire ce qui nous fait vivre d'abord, c'est d'abord écouter. C'est essayer de prendre la vérité qui habite ces gens-là. C'est leur vérité. Il faut savoir faire le discernement entre ce qu'il, entre la vérité avec un V majuscule, si je puis dire, et puis ce qu'il raconte. Et c'est le silence est beaucoup plus.
Vous voulez dire qu'il y a toujours des choses qui sont dites mais qui n'apparaissent pas dans les phrases prononcées, c'est ça?
C'est ça. Le malade vit des choses difficiles. Souvent, il est coupé de son milieu familial. Souvent, il est un peu isolé. Il souffre d'être dans des situations pareilles. Et il raconte les choses. C'est pas objectif. Et on a à faire attention à l'écouter et à recadrer ce qu'il nous raconte de façon à l'amener à mettre de l'ordre dans sa vie.
J'aimerais, avant qu'on fasse une première pause, que vous nous parliez un tout petit peu de votre apostolat dans le sud-ouest de Pic. Donc vous êtes venu ici pour le diocèse d'Auch et puis aujourd'hui pour le diocèse de Toulouse. Est-ce qu'on vous a confié un peu les mêmes missions en arrivant? J'ai cru comprendre que vous aviez aussi la responsabilité de monter une halte spirituelle sur les chemins de Saint-Jacques avec votre épouse.
Quand je suis arrivé, j'ai pris contact avec l'évêque de Auch qui m'a reconduit dans la même mission que j'avais à Nanterre. Donc de m'occuper des malades. Et il m'a confié la responsabilité du service évangélique des malades du diocèse. Donc j'ai rencontré des équipes qui fonctionnaient, on a essayé d'en créer de nouvelles. Et
il vous a demandé en plus donc
Il m'a demandé en plus de créer cette halte, parce que j'habitais un presbytère que nous avions réhabilité, j'habitais sur le chemin de Compostelle. Donc l'église était tout à côté. Et on a fait en sorte que cette église soit accueillante et qu'on puisse recevoir et accueillir les gens qui passaient. Donc avec eux, ça allait depuis la simple conversation à échanger le café jusqu'à faire la prière des heures ou d'autres confidences.
Comment s'appelait ce village?
Lannes-Soubiran.
Voilà, donc c'est chemin de Saint-Jacques et c'est entre les étapes de quelle ville et quelle ville?
C'est entre Nogaro et Aire-sur-la-Dour. C'est à l'extrémité ouest du département du Gers.
Ça fait combien de jours de marche, ça, depuis, si on part de la basilique Saint-Servin?
Oh, ça fait une semaine.
Une semaine.
Une petite semaine.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parler de quelques-uns des malades que vous avez accompagnés, puisqu'aujourd'hui c'est eux qui sont à l'honneur en ce 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes. Et je rappelle le titre de ce livre, de votre livre « Journal d'un diacre de campagne ».
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Journal d'un diacre, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce 11 février, jour de la journée mondiale des malades et fête de Notre-Dame de Lourdes. Nous sommes avec Hubert Paris, qui est diacre et auteur donc d'un livre intitulé Journal d'un diacre de campagne, qui était déjà passé donc dans les studios de Vivante Église, m'a-t-il dit. Je le reprécise parce que c'est important en ce jour, pour un autre livre intitulé Vivre avec une personne malade, paru aux éditions de l'Atelier. Ce livre, c'était en 2007, écrit avec Nicole Carré, psychiatre. Donc, une journée où les malades sont à l'honneur. Je le disais en introduction d'émission, voilà donc plus de 25 ans que vous accompagnez des personnes malades, que vous les visitez. On va se plonger dans quelques-unes des histoires, mais j'avais quand même une ou deux questions d'introduction. Vous nous disiez en première partie d'émission que dans le fond, le ministère de diacre, et particulièrement quand on visite les personnes malades, c'est apprendre à écouter. J'ai cru comprendre que c'est apprendre à écouter jusqu'au bout, m'a-t-on dit parfois. C'est-à-dire, vous me disiez qu'il fallait apprendre à lire entre les lignes, mais j'ai souvent entendu des prêtres dire qu'il faut apprendre à écouter jusqu'au bout. Est-ce que vous diriez ça aussi ?
Oui, je crois qu'il faut écouter jusqu'au bout. Et une anecdote, j'ai rencontré une personne dans une clinique qui ne m'a pas répondu quand je l'ai vue la première fois. Je viens une seconde fois, 8 jours après, je reviens, bonjour, etc., pas de réponse. La troisième fois, je rentre dans la chambre et je lui dis, je ne viendrai plus vous voir parce que je crois que vous sortez bientôt. Et la dame se retourne et elle me dit, merci pour tout ce que vous m'avez dit. Il y a dans le silence des choses extraordinaires qui passent. Et il faut surtout faire attention de ne pas venir vendre ce que l'on a, ce que l'on est. Il faut d'abord recevoir ce qu'est la personne malade.
Vous dites aussi à un moment dans votre livre, aimer non pour accaparer, non pour en faire mon pauvre, mon immigré, mon malade, mon etc. Parlez-nous de ce mon. Est-ce que on a vite fait de s'approprier ou de mettre la main sur les gens qu'on vient servir? À votre avis, est-ce que c'est une dérive naturelle?
La génération qui nous précède avait ces pauvres, ces malheureux.
C'était une expression.
Ces malades. Et je crois que avoir la prétention, je ne sais pas si c'est même une prétention, mais s'approprier des personnes, c'est contraire à l'esprit de la mission qui nous est confiée. Je ne suis pas venu m'accaparer, m'approprier des personnes. Je suis venu les mettre debout pour qu'elles puissent vivre seules. Et il faut prendre le risque de ne pas être aimé par ces personnes, de ne pas être reconnu. Il faut admettre leur liberté d'abord.
Alors j'aimerais que vous nous parliez de quelques histoires. On va commencer avec Françoise. Vous dites, c'est l'histoire de cette femme, Françoise, que j'ai accompagnée pendant des années alors qu'elle était encore chez elle. Elle avait beaucoup sympathisé avec mon épouse, nous étions très proches, je lui portais régulièrement la communion, etc. Et cette femme, donc, a un Parkinson, s'est déclarée. Parlez-nous un tout petit peu de Françoise et de ce qui lui est arrivé.
Françoise était une personne qui vivait seule. Elle vivait chez elle et elle souffrait de maladies neurologiques gravissimes. Mais elle avait le sens de l'accueil, elle avait le sens du partage. Et j'ai organisé chez elle des rencontres avec d'autres malades que je recevais par ailleurs pour parler de leurs problèmes.
Vous disiez, son appartement était magnifiquement meuglé, tout était organisé pour être à l'aise, dans une ambiance de paix. C'était une femme en fait pleine de vie.
C'est pleine de vie et qui avait le sens de l'accueil. À un moment, elle va être mise en maison de retraite et elle va passer son temps d'abord à donner à la maison qui l'accueille les livres qui étaient dans sa bibliothèque. Et le deuxième point, elle demande à la directrice si elle ne pouvait pas être la personne qui accueille les malades. Les nouvelles personnes, et elle leur disait ce qui se passait dans l'établissement, elle leur disait ce qu'ils pouvaient trouver, etc. Donc elle avait le sens du don de soi.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec elle, en fait? Est-ce que vous avez souvenir un petit peu de...
Oh oui, parce que c'est Françoise, c'est une femme qui m'a beaucoup marqué, parce que je l'ai accompagnée d'abord pendant plusieurs années, et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'abord écouter. Donc j'ai écouté Françoise, et j'ai reçu des confidences extraordinaires, que je n'ai jamais répétées, que j'ai gardées pour moi. Et nous avons cheminé, nous avons essayé de retrouver sens à sa vie qui était perturbée par ces confidences qu'elle m'avait faites, jusqu'au moment où elle a demandé qu'un prêtre vienne lui donner la communion. Le prêtre est venu, et je lui ai dit, j'accompagne Françoise depuis déjà plusieurs années, elle a fait un chemin vers la foi qui est évident. Je sens en elle son désir de recevoir le Christ. Est-ce que vous lui donnez le Christ? Et le prêtre m'a dit, j'entends ce que vous me dites et je lui donne la communion. Donc avec Françoise, il y a eu un cheminement extraordinaire de rapprochement. Et pendant les années qui ont suivi, où elle était à l'hôpital, à la maison de retraite, elle a continué d'avoir cette présence.
Vous dites à son sujet, Françoise me confie, c'est difficile de quitter, alors ça c'est quand elle est rentrée dans cette maison de retraite, c'est difficile de quitter tout ce qui fait sa vie. Aujourd'hui je n'ai plus rien, oui. Et je ne me suis jamais senti aussi libre, je peux penser à l'essentiel. Extraordinaire de dire ça.
Elle pense à l'essentiel, et elle va me dire quelques mois plus tard, elle s'approche de la fin, elle va me dire, vous savez Hubert, c'est difficile d'accepter de devenir ce que l'on devient. Mais ce qui est essentiel, c'est de rester aimable. Et elle me rajoute, pas aimer, aimable d'abord.
J'aimerais maintenant qu'on parle de Pierre. Alors c'est un petit peu plus loin dans votre livre. Pierre et Antoinette, donc ils ont 6 enfants. Et si je ne me trompe pas, Pierre va tomber donc gravement malade. Vous allez m'aider parce que j'arrive plus à rassembler mes idées. Vous allez accompagner donc Pierre dans cette maladie. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Pierre ?
Pierre a le sida. Père de 6 enfants. Nous étions très proches parce que nous fréquentions la même paroisse.
Ah oui, c'était des amis, c'est ça, hein ?
C'était des amis. Et nos enfants allaient dans les mêmes classes que les leurs. Donc on se connaissait très bien, on avait beaucoup de points communs.
Donc le sida, il faut dire que donc c'était dans les années...
C'était il y a 15 ans, au plus de 15 ans, 18 ans même. Donc, c'était à l'époque où le sida était sans appel, on mourait du sida.
Voilà, mais maladie honteuse.
Et puis c'était une maladie honteuse. Donc cette famille avait beaucoup de relations, etc. Et elle va se retrouver isolée par la maladie, isolés aussi bien vis-à-vis de leurs amis qui vont les prendre leur distance que de leur propre famille.
Là, vous dites que c'était une des lèpres de notre société.
Ah oui, tout à fait. Et son épouse va passer par des moments de révolte épouvantable. Et donc j'allais le rencontrer à lui d'abord. Et je rencontrais ensuite son épouse quand elle me raccompagnait pour quitter la maison. Et nous avions des longs moments d'échange. Parce que c'est... Et j'ai senti l'évolution de cette révolte qu'elle avait au départ à un pardon, à une acceptation. Et quand nous étions à l'hôpital... entouré de tous ses enfants, avec les 6 enfants, les épouses, etc. Et je leur ai porté la communion. Donc il y a eu une vie de communion, de familiale très forte.
Alors c'est pareil en fait que quand on est diacre et qu'on accompagne comme ça quelqu'un dont on a été proche, qui traverse une telle épreuve donc avec son épouse, je sais pas, quand vous relisez comme ça, c'était quoi ? C'était juste être présent, savoir écouter, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus qu'il faut ?
Ah non, aujourd'hui ça fait déjà plusieurs années que les choses se sont passées, mais quand j'étais chez lui, le soir où il m'a annoncé de quoi il était malade, j'ai tenu le choc au moment de l'annonce, mais quand je suis rentré à la maison, je me suis effondré en larmes, parce que c'était trop fort. Mais en tant que diacre sur place, je devais maintenir mes émotions. Et l'accompagnement, la présence que j'ai pu avoir aussi bien chez lui, auprès de lui, que auprès de son épouse. Il y avait aussi ses 6 enfants qui étaient jeunes.
Et donc comment vous la qualifieriez, cette présence? C'est quoi en fait? C'est quoi? C'est juste une présence aimante et compatissante? Ou est-ce que quand on est diacre et justement qu'on a reçu le sacrement de l'ordre, on essaye toujours de trouver des chemins pour l'évangile au cœur de ces difficultés?
Alors je crois que l'essentiel du témoignage de foi, c'est la réalité, la conformité par rapport à la parole de l'évangile et dans nos actes. C'est pas de leur donner des paroles, de leur citer des paroles qui fait. C'est mon attitude de paix, de confiance, de respect qui fait que ces jeunes sont restés fidèles. Et j'ai accompagné ces deux de ces enfants après la mort du père pour les marier.
Avant qu'on fasse une deuxième pause, j'aimerais que vous nous parliez alors c'est vous qui allez choisir, soit de cette femme atteinte de la maladie de Charcot, on s'était dit, soit d'un de vos copains d'enfance, si j'ai bien compris, un certain Alain. Alors lequel choisissez-vous des deux?
C'est tout à fait différent, parce que celle de la maladie de Charcot, c'est une femme qui avait beaucoup de foi, beaucoup d'espérance, qui s'est fait plaisanter et qui disait par exemple, il faut que je m'achète une toilette pour partir, parce qu'on ne part pas dans de vieux habits. Mais qui savait aussi prier régulièrement avec la passion du Christ.
Alors pourquoi elle vous a marqué, celle-là, peut-être?
Elle m'a pas marqué parce que ça m'a permis de faire le lien. Elle était en milieu hospitalier dans un grand hôpital parisien, et ça m'a permis de faire le lien avec l'infirmière. L'infirmière était à tous les instants auprès d'elle, et elle avait un rôle particulier parce que elle savait, dans ces moments de liberté, prendre les temps de prière que demandait cette femme.
Donc là, ce qui vous a marqué, c'est quoi en fait? C'est la figure d'une soignante qui...
C'est la figure d'une soignante.
Qui savait rajouter un supplément d'âme.
Tout à fait. Et cette soignante qui a été le relais et qui a pris en charge la famille, le père, le mari et les enfants. Et pendant des années, elle a continué de les rencontrer.
Alors si on finit par Alain, donc Alain c'est un de vos copains si j'ai compris.
Alain c'est un camarade de classe avec qui donc, nous avons entendu parler de Jésus-Christ dans la cour de récréation.
Voilà, à Sétif, non pas à Sétif.
À Délice.
À Délice, donc en Kabylie avec ce fameux et Paul Poulalion, c'est ça?
Et ce Alain était aussi...
Cet apôtre.
C'est l'apôtre, oui.
Alors Alain, racontez-nous, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est pareil, comment est-ce que vous avez essayé de lui prendre la main un peu dans ces circonstances de vie compliqué.
Alain avait un chemin de non-croyant lui aussi, et quand il a rencontré ce copain Poulaillon, il a reçu la communion, il a reçu la confirmation ensemble à l'école.
C'est-à-dire que vous êtes plusieurs en fait à avoir fait un chemin de foi.
3.
Vous avez tous les 3 fait un chemin de foi au contact de ce jeune.
Oui, oui.
Extraordinaire.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Qu'est-ce qu'il est devenu, ce Paul Poulaillon?
Paul Poulaillon est parti au Brésil.
Il est devenu prêtre ou...
Non, il a divorcé. Et il a trouvé de quoi travailler au Brésil. Et je ne l'ai revu que 2 fois depuis qu'il est parti, depuis qu'on a quitté l'école.
Alors parlez-nous de ce Alain. Donc, en tout cas, Alain donc, que vous retrouvez un peu à la fin de sa vie. Hein,
il y a eu quelques... Je retrouve à la fin de sa vie. On l'a retrouvé un peu plus tôt parce qu'il a été le parrain d'une de nos filles. Et nous nous sommes, aussi longtemps qu'on soit restés séparés, on s'est toujours retrouvés avec grand plaisir. Et la dernière fois que sa femme me téléphone en me disant « Alain est malade, ça va pas », et on était dans le non-dit, dans le mensonge. Il fallait pas lui dire qu'il était malade. Donc je n'ai pas accepté de faire des heures de métro pour aller le voir à l'hôpital. J'ai quand même posé la question. Et c'est là qu'il me dit, c'est le titre de l'histoire, « Je vais bientôt crever ». Il était complètement perdu. Il vivait un problème douloureux aussi au niveau du couple. Et en parlant, je finis par lui dire « De toute façon, tu ne vas pas crever. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'essayer de te soigner. » Et en partant, parce que je le connaissais quand même, je savais, on avait été à l'école ensemble, Je lui dis, on va dire le Notre Père ensemble. Et à chaque verset du Notre Père, je faisais un commentaire. Et quand j'arrive au bout, il me dit, c'est bon, il y a 30 ans que je n'ai pas dit Notre Père. C'est pour moi, c'est du travail de chrétien, je ne sais pas, de diacre peut-être, mais de chrétien.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver justement pour parler un petit peu du diaconat. Diaconat qui veut dire service, si je ne me trompe pas. Hein. Le titre de votre livre, Journal d'un diacre de campagne, Hubert Paris, auto-édition. On vous retrouve après cette pause musicale.
Radio Présence à Montauban, 93.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Journal d'un diacre, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec Hubert Paris, diacre et auteur donc d'un ouvrage intitulé Journal d'un diacre de campagne, une auto-édition. En ce 11 février, donc, je le disais, vous êtes un peu tombé du ciel, puisque nous sommes le jour de la journée mondiale des malades et vous avez été donc pendant plus de 25 ans au service des malades. Je le disais parce que vous avez une voix grave eu égard à votre âge et à votre expérience, et que la maladie est aussi quelque chose de grave, mais on va dire ça n'est pas mortel que d'être diacre au service des malades. Racontez-nous un peu les joies de ces apostolats aussi, ou de ces rencontres. Il peut y avoir de la joie au milieu de la gravité.
Tout à fait. Je ne suis jamais ressorti anéanti d'une visite de malade, aussi grave soit cette maladie, parce que j'essayais de dire à ces personnes que la vie, elle mérite toujours d'être vécue, quelles que soient les limites qu'il peut y avoir, parce que la maladie ou le handicap la gêne, mais vivre est toujours une source de joie.
Est-ce que vous diriez aussi qu'au long de ces années donc au service des malades, c'est parfois ce que je raconte les soignants en soins palliatifs, vous avez comme touché du doigt en fait les réalités d'en haut, comme on dit, de la vie éternelle. On sait qu'il y a des soignants qui sont marqués par ça. Alors eux, ils accompagnent jusqu'à la mort, hein, mais qu'à la longue, en fait, il finit par y avoir comme une plus grande porosité entre les réalités de la vie éternelle et nos réalités à vous. Est-ce que c'est quelque chose aussi avec lesquels vous ressortez fort de ces 25 ans d'expérience?
Je crois que Ce qui paraît le plus urgent, c'est de faire prendre conscience aux gens que souvent ils vous disent j'en ai marre, je comprends rien, ma vie est foutue, etc. Et c'est apprendre à leur tricoter ce qui était de leur vie en mettant de l'ordre, de retrouver le sens de la vie. Et à partir du moment où on arrive à faire ce chemin, ils arrivent à être beaucoup plus sereins. Et c'est ça notre but, c'est d'essayer de leur donner plus de paix pour pouvoir vivre ce qu'ils ont à vivre.
J'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus donc, dans cette dernière partie du diaconat, peut-être connu de certains et moins de d'autres, et en commençant par revenir sur l'appel. Vous disiez au début de l'émission donc, qu'un jour, alors que vous étiez marié, en l'occurrence vous aviez une trentaine d'années, donc on vous a appelé assez tôt, un prêtre vous a dit « est-ce que vous avez déjà pensé au diaconat ?» Finalement pour vous ça s'est concrétisé presque 30 ans après. Que dire de cet appel dans l'esprit des gens, l'appel en général, c'est plutôt un sentiment intérieur que Dieu nous appelle à quelque chose. Est-ce que vous diriez que pour les diacres, c'est pareil? Vous vous êtes senti appelé par Dieu?
Je me suis senti appelé par les frères. Quand je suis sorti de l'école, j'avais rencontré ce garçon qui nous a parlé Jésus-Christ. J'ai rencontré ensuite ma marraine qui m'a fait découvrir le sens du service auprès des plus pauvres. J'ai rencontré mon premier patron qui est devenu un ami qui m'a fait découvrir le respect. J'étais en Algérie, donc il y avait des tensions entre les musulmans et les chrétiens. Et il m'a fait sentir cette richesse qu'il y avait entre les deux. Et c'est tout ça qui est à l'origine de mon appel. Et cet appel, à un moment, va se concrétiser, non pas par ma mise en avant de moi-même, mais c'est parce qu'un prêtre avait senti que j'étais dans cette disposition. Et il va me demander si je veux devenir diacre.
Alors si vous deviez présenter un peu ce qu'est le diaconat, les premières traces qu'on a du diaconat, c'est en fait dans les Actes des Apôtres, donc les apôtres choisissent sept hommes estimés de tous et remplis d'Esprit Saint et de sagesse, pour lesquels ils prient et sur lesquels ils imposent les mains pour qu'ils assurent de manière équitable le service des tables à l'époque. Racontez-nous, cette tradition, en fait, elle a toujours existé dans l'Église, mais elle a été remise au goût du jour récemment.
Elle a existé dans l'Église jusqu'au IXe siècle, à peu près, Charlemagne. Et puis, il y a eu des tensions entre les diacres qui gardaient les finances de l'Église et les curés. Donc il y a une, on a supprimé le diaconat est tombé en désuétude dans l'Église catholique romaine. Et à la fin de la guerre, quand Monseigneur Rodin et
fin de la Seconde Guerre mondiale, oui.
Seconde Guerre mondiale, le Monseigneur Rodin et le père Épagnol, qui est le fondateur des missions des campagnes.
Et Monseigneur Rodin du Secours catholique.
Du Secours catholique. Écrivent à Rome en disant « Nous avons vu trop de douleurs et de souffrances dans les camps en Allemagne, il faut réhabiliter le diaconat. » Et Rome a tout de suite mis l'accent là-dessus, et dans les premières discussions qui ont eu lieu pour le Concile de Vatican II, on a entériné la décision de recréer le diaconat.
Mais attendez, je ne comprends pas très bien le lien entre les souffrances de la guerre et le diaconat. Quel est le lien de cause à effet là?
Les souffrances qu'avait vues Monseigneur Rodin, il pensait qu'avec l'aide du diaconat, la réhabilitation du diaconat, on pourrait aider les personnes qui sont atteintes de ces maladies.
Comment vous résumeriez le rôle du diacre? Donc diaconat, ça veut dire service.
Service.
Voilà. Enfin, vous avez donc différentes responsabilités, hein, un ministère de la parole, un ministère sacramentel entre autres, donc en tout cas les funérailles, la préparation au sacrement, au baptême, au mariage, à l'Eucharistie. Voilà, vous êtes présent dans la liturgie. Si vous deviez résumer, on va dire le rôle du diacre pour les nuls, ça serait quoi?
Je dirais que le rôle du diacre, c'est la présence des absents. Quand je suis à l'autel, habillé avec l'aube et l'étole, je ne suis pas pour embellir la liturgie, je ne suis pas pour donner du faste à cette liturgie.
Vous n'êtes pas un super enfant de cœur?
Je ne suis pas un super enfant de cœur. Je suis là pour être... je représente les gens auprès de qui je suis envoyé. C'est tous les malades que je visite qui sont présents avec moi. Et je crois que le rôle essentiel du diacre, c'est cette présence de l'absent.
Je vois le temps qui passe. J'avais quand même deux, trois questions. Allez, un ou deux moments, vous êtes un peu piquant. Je me suis dit, c'est peut-être eu égard aussi à son âge qu'il peut prendre ce type de liberté. Vous ne les développez pas forcément, vos piques, mais à un moment, vous dites « Je suis très critique à l'égard de quelques membres du personnel de l'Église ». Et vous reprenez là une expression de Jacques Maritain. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
On a aujourd'hui dans l'Église une espèce de retour en arrière. C'est-à-dire que on ne parle pas on oublie trop que Jésus-Christ est incarné, qu'on est de la religion d'incarnation. On oublie trop qu'il est venu pour nous parler d'amour et nous parler de tout ce qui peut nous aider à nous en sortir. Dieu nous aime. Dieu nous... et il nous sauve, avec notre avis, bien sûr. Mais Dieu n'est pas là pour régler des comptes et des traditions avec un S qu'il faudrait adapter avec les époques.
Est-ce que vous pouvez être plus précis? Parce que, bon, on peut entendre derrière, vous le redites à un autre moment, que vous trouvez qu'il y a une forme de tentation d'un retour au passéiste dans l'Église. Bon, il ne s'agit pas de remuer le couteau dans la plaie, mais juste pour bien comprendre le sens de votre remarque, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de pas évangélique à vous entendre?
Quand on insiste tant aujourd'hui sur la communion sur la langue, pourquoi on a mis la communion sur la langue? Parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, les gens qui arrivaient d'avoir travaillé n'étaient pas toujours très propres, et il valait mieux mettre le corps du Christ directement sur la langue. Pourquoi se braquer sur cette situation alors qu'aujourd'hui les choses sont différentes? Et quand on met dans les mains, il y a une dimension plus... On accueille le Christ, on le reçoit. Sur la langue, il y a des risques de transmission de microbes aussi.
Donc c'est quoi? C'est une église un peu puritaine à vous entendre, en fait, que vous dénoncez? C'est...
Un peu. Je crois qu'il ne faut pas s'attacher à des... Il faut savoir adapter les traditions qui ont fait l'église pendant 20 siècles pour pouvoir se mettre au goût du jour sans trahir la valeur évangélique.
Hubert Paris, je vous avais dit à la fin de l'émission que je vous poserais cette question. Qu'est-ce que le diaconat a changé dans votre vie? Voilà, après 25 ans de diaconat, vous diriez que le Hubert Paris d'avant et d'après n'est plus le même? Et si oui, pourquoi? Ça vous laisse bouche bée?
Non, ça ne me laisse pas bouche bée.
Allez-y, il faut répondre, vous êtes en direct.
J'ai dit un premier oui quand je me suis marié, de valeur sacramentelle qui me liait de façon définitive. Et je crois qu'au moment de l'ordination, quand je réponds à l'évêque « me voici », je suis dans la même situation, aussi indélébile, c'est définitif. Donc c'est un engagement qui me prend définitivement et qui m'apporte énormément de joie.
Alors qu'est-ce qu'il laisse comme trace en vous? Est-ce que vous direz, qu'est-ce qu'il a changé en vous?
Je suis toujours le mari de Francette, je suis toujours le père de mes enfants, et je suis en plus diacre à l'église. Mais pas, je suis diacre à l'église quand j'ai l'aube, mais je suis diacre aussi quand je suis à la maison, quand je rencontre le voisin dans la rue, sans ornement.
Eh ben, merci beaucoup Hubert Paris d'être venu ce matin au micro de Vivante Église. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, Journal d'un diacre de campagne. Pour ceux qui voudraient se le procurer, puisque c'est une auto-édition, eh bien, il faut s'adresser directement à vous, un numéro de téléphone 06 08 45 17 60, 06 08 45 17 60, Hubert, et sinon une adresse email hubert.paris32@orange.fr, hubert.paris32@orange.fr. Merci beaucoup d'être venu en cette fête de Notre-Dame de Lourdes, micro de Vivante Église, pour nous parler donc via votre vie des malades. Je rappelle que suite à cette émission Vivante Église, une grande messe, s'il y a des grandes messes ou des petites, hein, mais une messe, la messe du 11 février, sera retransmise en direct de Notre-Dame de Lourdes, messe présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, président de Caritas Internationalis, avec les commentaires de Mathias Terrier de Radio Présence Lourdes. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.